Mais j'ai mis un titre à mon message, un petit peu prétentieux peut-être, « Ce que Dieu attend de son peuple au XXIe siècle ». Vous ne trouvez pas que c'est une bonne question ? C'est peut-être prétentieux aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je ne prétends pas du tout d'être exhaustif, parce que vous y seriez encore la semaine prochaine, jusqu'au cours B.A.B.A., j'imagine, et voilà, on a besoin de libérer la salle pour les autres activités du culte, mais on va dire quand même quelques éléments par rapport à ce thème, ce que Dieu attend de son peuple au XXIe siècle. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais ça n'a pas changé. Même si aujourd'hui on est bourré de technologie, on a les poches remplies pour certains de boutons qui sonnent ou d'autres choses, enfin des trucs comme ça, ou des ordinateurs, ou des notifications ou autres, finalement ça n'a pas changé. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, on doit partir, mais moi je ne sais pas parler, et puis c'est compliqué. Voilà, c'est un appel à se mettre au service de Dieu, c'est un appel à l'action, à la mission, c'est très bien. Mais pour faire ça, eh bien, Dieu demande à son peuple de vivre certains éléments, pour que ce soit possible de vivre l'amour authentique qui reflète aussi son amour, parce que Dieu est amour et on aime bien le rappeler. C'est un amour infini, inconditionnel, et l'amour est non seulement un commandement fondamental, mais aussi un reflet, la nature même de Dieu. Et on va voir aussi combien Dieu a fait alliance avec son peuple tout au long des Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et Dieu a fait alliance aussi par son sang en la personne de Jésus-Christ. Mais déjà l'amour, parce que c'est vrai, on peut se dire, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, il y a ce commandement d'aller. Mais si on y va juste comme ça, parce que c'est marqué, parce qu'on se met une pression monstre, ça sera ce qu'on appelle du légalisme. S'il n'y a pas le moteur qui nous anime pour y aller. On va le faire parce qu'on doit le faire. Et ça ne sera plus vraiment Dieu qui le commande, mais un devoir, un ordre. Je dois faire ceci. Il y a tout un tas de tâches à accomplir, des to-do list ou ce genre de choses. Et on est bien au-delà de ça. Comme certaines religions ou d'autres choses, comme les témoins de Jéhovah ou les mormons, où ils doivent accomplir des choses. Ils doivent accomplir certains trucs. Et on n'est pas du tout dans cet ordre-là. Lorsque Jésus dit d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Autrement, eh bien, on se mettrait une pression incroyable. Venons à l'amour. Déjà, pour arriver à accomplir cette mission aussi, eh bien, on a besoin de ressentir, de recevoir son amour. La base, de nouveau, c'est basique. Forcément, la base, c'est basique. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et c'est le plus grand commandement. Dans Matthieu 22, 37 à 38, Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça signifie que notre amour pour Dieu doit être total et sincère, prioritaire sur toute autre affection. Aimer Dieu de tout notre être, ça veut dire qu'on doit transpirer de l'amour de Dieu. Je ne sais pas... C'est peut-être la seule transpiration qui sont bons. Mais pour ça, il faut une relation intime avec Dieu. Et Dieu désire qu'on recherche sa présence et qu'on ait une communion avec lui. Et que notre amour pour lui soit notre première motivation dans la vie. On a tellement de motivations, tellement de choses qui nous mettent en mouvement, tellement d'envie, de voyage, de ceci, de... On fait des plans, on peut se dire « Ah, encore tant d'années, puis je serai à la retraite, puis j'aurai pu économiser, puis enfin je vais pouvoir faire tous les voyages que je n'ai pas pu faire » ou plein de trucs, des rêves. Et cet amour pour Dieu doit influencer aussi tous les aspects de notre vie. Encore bien plus que tous les projets qu'on peut faire, des plans qu'on peut faire pour faire ceci, pour faire cela. aimer Dieu de tout notre être. Ça, c'est la base. Autrement, si on part évangéliser, si on répond à cet appel ou à certains versets dans la Bible, sans aimer Dieu, finalement, comment on va connecter les gens à Dieu si vraiment notre être entier n'est pas connecté à Dieu ? Donc cette relation intime. Deuxième chose, et là c'est peut-être un échelon encore plus haut, Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus va dire d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, toute sa force, puis il dit « Ça c'est le premier commandement ». Après il dit « Bah, il y en a un deuxième qui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et ce commandement englobe toutes nos relations humaines. Il nous appelle à aimer les autres avec bienveillance, avec compassion, avec respect. Alors c'est facile d'aimer les gens quand on ne les voit pas. Combien de personnes s'entourent que de personnes qu'ils apprécient, qu'ils aiment, qui pensent comme eux. Voilà. Donc c'est assez simple. Beaucoup quittent même les églises parce qu'ils ont de la peine à ils ont été déçus ou désespérés, ou on leur a mal parlé, ou il y a tel frère, telle sœur, tel pasteur qui a été désobligeant, ou je ne sais pas quoi. Alors c'est facile d'aimer quand tout le monde est bon. Mais là encore, d'aimer ton prochain comme toi-même, c'est un amour actif. Aimer son prochain, ce n'est pas seulement éprouver des sentiments positifs, mais c'est aussi agir pour le bien de l'autre. C'est faire quelque chose, c'est un amour qui a des mains, qui a des pieds. Et ça implique de tendre la main aux personnes dans le besoin, d'être présent pour ceux qui souffrent aussi, et de chercher la justice pour les opprimés. Aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi éviter le jugement et la rancune. Aimer son prochain signifie pardonner, éviter de juger, éviter de garder des ressentiments. Je pardonne, mais j'oublierai jamais. Ça nous fait sourire, mais c'est tellement dans notre nature humaine. Je ne suis pas en train de faire de la provocation, mais c'est tellement pas naturel d'être comme ça, qu'on a besoin du surnaturel de Dieu pour y arriver. Parce que par notre propre nature, autrement, c'est que des efforts. On va te dire d'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Déjà, c'est juste incroyable. Puis après, on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais laissez-moi vous dire que c'est juste impossible. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des mauvaises personnes, bien au contraire. Mais notre nature humaine, quelle qu'elle soit, on n'est pas à la hauteur, on a besoin. Eh bien, déjà de ressentir cet amour de Dieu, de vivre cet amour, d'être rempli de bonnes choses. Si on se laisse encombrer par tellement d'autres choses, d'autres informations, eh bien, ça va être compliqué de manifester vraiment tous les dons, tous les fruits de l'Esprit. Dans Luc 6, 37, Jésus dit « Ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, pardonnez et vous serez pardonné. » Il y a un lien de cause à effet, finalement. Tu ne veux pas être jugé ? Des fois, on peut entendre, on peut avoir la fausse impression ou la vraie impression, ça peut être des fois objectif, subjectif, mais on me juge. Et combien de fois, nous-mêmes, des fois, on ne se rend pas compte, et si on est honnête, on se dit, on a peut-être telle pensée, telle pensée sur telle personne, tel frère, telle sœur, tel membre de notre famille aussi. Ne jugez point, vous serez point jugés. Ne condamnez point, et vous serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Mais ça va encore plus loin. Ça, c'est d'aimer son frère, donc c'est plus ou moins correct, comme soi-même. Et encore une étape en plus. Dans la Bible, on trouve encore quelque chose qui est encore plus radical, un amour qui est contre-culturel, je dirais, contre notre nature. Jésus demande à son peuple d'aimer même ceux qui nous font du mal ou nous persécutent. Matthieu 5, 44, vous pouvez vérifier. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. J'ai résumé dans mes notes, mais c'est projeté le verset en entier. Vous pouvez prendre des notes ou réécouter ces messages qui se trouve sur un autre site internet ou la chaîne YouTube. Mais surtout, relire dans vos Bibles et méditer ces paroles. Vous laissez imbiber par cette parole qui c'est la seule qui peut nous transformer. Nous, on peut dire des choses du haut de la chair, mais personne ne peut vivre à la place de quelqu'un d'autre, ces choses-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut rendre vivant toutes ces paroles, toutes ces choses, tous ces propos, tous ces versets. Autrement, c'est impossible. On ne peut pas vivre ces choses par procuration. Et cet amour, tel que mentionné là, dépasse toutes les attentes humaines, nous appelle à refléter le caractère de Dieu. C'est juste impossible. En tout cas, pour moi. Pour moi, c'est impossible. Prier pour ceux qui nous nuisent, aimer ses ennemis, signifie aussi prier pour ceux, pour eux et leur souhaiter la réconciliation avec Dieu. Je pense pour vivre une vraie paix entre nous, on a besoin de venir à la base, c'est-à-dire d'aimer Dieu. On ne peut pas pardonner à son prochain, on ne peut pas aimer son prochain si d'avance on a des griefs contre Dieu. La base, la source, ça reste Dieu. Ce n'est pas possible de faire dans le sens inverse, finalement. Tu ne peux pas pardonner et puis après dire « je vais aimer Dieu ». Ce n'est pas complet. Ça, pour ma part, c'est mettre les choses à l'envers. On a besoin de recevoir déjà le pardon, la grâce et l'amour de Dieu pour que ça puisse se couler, pour que ça puisse couler sur les autres. Et ça nous libère de l'amertume. Ça démontre la puissance transformatrice de Dieu. Il y a autre chose encore, c'est d'aimer avec des actes. Aimer avec des actes et pas seulement en paroles. Un amour pratique, sincère. Dans 1 Jean 3,18, il a écrit « Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en action et avec la vérité. » Et avec vérité. Petits enfants. Dieu nous considère comme des enfants, comme des fils et des filles. N'aimons pas juste en paroles. C'est facile de dire « j'aime tout le monde hein. ». J'aime tout le monde, mais si possible, j'aimerais pas te voir trop souvent. Mais en action et avec vérité. De nouveau, c'est un amour qui a des mains, qui a des pieds et qui se vérifie. Dieu appelle son peuple à un amour authentique qui se manifeste par des actes concrets. Et pour accomplir la mission de Dieu, eh bien, il nous faut l'amour. D'accord, ça c'est le premier point que j'avais à cœur de partager. Pour pouvoir aller dans ce monde, on a besoin de cet amour tel que décrit. Vous pouvez le développer à souhait, je vous laisse développer ce point. Mais le moyen pour parvenir à accomplir la mission, le mandat que Dieu nous donne, là encore au XXIe siècle, c'est quoi? Désolé, ça reste le même depuis 2000 ans, c'est la croix. C'est la croix. Je crois qu'on en a entendu un petit peu parler ce matin. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est toujours la prédication de la croix. Et ça restera toujours la prédication de la croix. On peut l'enrober de mille et une manières si on n'en revient pas à la croix. Même si la croix dérange, tout le reste, ça va conduire à peut-être travailler des émotions. On va être touché dans nos émotions. On va ressentir. Il y aura... Mais ça ne va pas conduire vraiment à une repentance. La croix. La croix, premièrement, c'est la démonstration suprême de l'amour de Dieu. Comment comprendre l'amour de Dieu si on n'en vient pas à la croix? L'amour inconditionnel de Dieu. La croix révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Dans Romains 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Christ est mort pour nous, Romains 5,8. La croix nous rappelle que Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Moi, ça me dépasse complètement. J'ai 4 enfants, mais ça ne me viendrait pas à l'idée. Bon, maintenant, ils sont grands, ils sont adultes, ce serait difficile, mais Jésus était adulte, était grand et... Il est de toute éternité. C'est difficile de comparer, mais c'est juste incroyable. Comment comprendre l'amour de Dieu si on n'en revient pas à la croix? Comment? Si on ne comprend pas ça. La croix nous rappelle eh bien, que Dieu a payé à notre place, que Dieu nous aime. La croix, c'est la réponse de Dieu au péché, la gravité du péché. La croix nous montre à quel point le péché est sérieux aux yeux de Dieu. Oui, autrement, c'est pas grave, finalement, un petit péché par-ci, un petit péché par-là. Mais la croix, ça nous montre vraiment quelque chose d'horrible. Heureusement, elle est vide, il n'y a pas... Jésus est descendu de la croix. Il a été mis dans le tombeau, il est ressuscité. Mais la croix, c'est un châtiment absolument horrible. Les gens agonisaient. Ils étaient étouffés parce que, avec la pression comme ça, ils mouraient asphyxiés. Et ça pouvait durer jusqu'à 3 jours. La croix, c'est la réponse de Dieu à la gravité du péché. Montre à quel point, eh bien, c'est sérieux. Dieu est saint et juste, et il ne peut pas ignorer le péché. Si vous faites abstraction de ça, eh bien, il va manquer quelque chose. Les gens ne vont pas être convaincus de péché, de justice et de jugement. Il a fallu que le Fils subisse la mort pour que le péché soit effacé. Et la croix révèle la sainteté de Dieu et sa haine du péché. Sa haine. Dans l'Ancien Testament, il y avait tous les sacrifices. Et relisez l'Ancien Testament. Si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament, mais lisez l'Ancien Testament. Et vous allez dire, mais c'est horrible, tous ces trucs, tous ces machins et les sacrifices. Et vous lisez en parallèle le Nouveau Testament. Et vous dites, tous ces sacrifices, finalement, ont été accomplis en une personne, en Jésus-Christ. Et il n'y a plus besoin de faire de sacrifices par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Il a payé une fois pour toutes, pour tout ce qui était avant et pour tout ce qui est sa période et tout ce qui est après. Il a payé par anticipation aussi. Mais ça nous révèle la gravité du péché. La croix révèle la sainteté de Dieu et sa haine du péché. On ne peut pas s'approcher de Dieu autrement. La croix, c'est le lieu de la réconciliation avec Dieu. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut être réconcilié. Être réconcilié avec. Réconcilié entre Dieu et l'humanité. À cause du péché, il y a une séparation qui s'est installée entre Dieu et les hommes. Et la croix, c'est le moyen que Dieu a choisi pour rétablir cette relation brisée. Dans Colossiens 1, verset 20, il est dit que Dieu a voulu réconcilier par Christ toutes choses avec lui, ayant fait la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang versé sur la croix. C'est par son sang. Il n'y a pas d'autre moyen, mes frères et sœurs. On peut essayer d'enrober, de rendre agréable le salut, mais ce n'est pas agréable. C'est une mort à soi-même et c'est surtout une mort de notre Sauveur. Et mais Dieu nous a réconciliés. Et ça nous ouvre cet accès direct aussi à Dieu. La croix, c'est ce lieu de réconciliation. Par la croix, le voile du temple a été déchiré. Ça symbolise qu'on a désormais accès avec Dieu. Ça se trouve dans Matthieu 27. Vous pouvez lire ça si vous voulez ou si vous prenez des notes. On n'a plus besoin d'intermédiaire car Jésus est notre grand prêtre et son sacrifice parfait nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance parce qu'il a tout accompli. La croix encore, c'est le message de la grâce et de pardon. Le pardon des péchés. Par la croix, on a le pardon complet de nos péchés. Jésus a pris sur lui-même toutes nos fautes afin qu'on puisse être libéré de la culpabilité, de la condamnation. Combien de personnes vivent encore sous le joug de la culpabilité ? Venez à la croix. Venez à la croix. Éphésiens 1:7, il est dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Demandez à Dieu une révélation de la croix. Autrement, vous allez toujours revenir sur des accusations que le diable cherche à vous rappeler. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous délivrer de toute injustice. Souvenez-vous de la parole de Dieu, lisez-la. Nourrissez-vous de cette parole de Dieu. Moi, je ne peux pas la lire à votre place. On a besoin de lire la parole de Dieu, de lire, de relire. Même si vous n'aimez pas lire, lisez la parole de Dieu quand même, parce que si vous aimez Dieu, vous allez chercher à apprendre à le connaître. Quand on aime quelqu'un, on a envie de le connaître, on a envie de savoir qui il est, on a envie de savoir ce qu'il aime. Pensez à la personne qui est la plus chère sur cette terre, humainement parlant, pour vous. Et vous allez tout faire pour apprendre à la connaître, pour passer du temps avec. c'est pas pénible, c'est pas compliqué. On a envie de cette proximité. Et même si vous aimez pas lire, tellement votre amour pour Dieu, vous avez envie de le connaître, de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, lui faire plaisir. Il n'y a pas d'autre moyen de nouveau. Dieu s'est révélé par sa parole. Il est la parole faite chair. Dieu s'est révélé par son esprit. Autrement, on devient comme ça mystique, on croit certaines choses qu'on a entendues, qu'on a vues, tel message, même ce que je vous raconte. Vérifiez dans la parole de Dieu. Autrement, vous allez dire, ouais, c'était bien, ça nous a touchés, ça a touché nos émotions. Mais ce n'est pas le fait, un message est bon, ce n'est pas parce qu'il a touché nos émotions, parce qu'on a versé une petite larme, qu'il est bon, ça ne fait pas de ça. Mais c'est parce qu'il est foncièrement biblique. Foncièrement biblique, la croix. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La croix, c'est encore un appel à la repentance et à la foi. La nécessité de la repentance. La croix nous appelle à reconnaître notre péché et de nous tourner vers Dieu avec un cœur de repentance. Pierre va dire dans Actes 3, 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Repentez-vous, c'est le message qui se trouve dans la Bible. Lisez dans Actes 3, 19. On aime bien dire, des fois on entend, il faut vivre comme aux Actes des apôtres. Ben ça aussi c'est dans les Actes des apôtres. Repentez-vous et convertissez-vous. Se repentir, il y a un acte, il y a une action, il y a quelque chose, il y a un brisement. Et se convertir, ça veut dire que désormais, je vais prendre une autre direction. Ça me coûte. Ça me coûte dans mes choix. Ça me coûte dans mes relations, peut-être. Ça me coûte peut-être parce que des gens ne vont pas comprendre que tout à coup, il y a certaines choses que je ne pratique plus, je ne fais plus. Ça coûte. Il y a une action. Et ce n'est pas forcément facile, mais c'est parce qu'on reçoit cet amour de Dieu et bien qu'on est poussé à la repentance. La prédication de la croix invite chacun à un changement de cœur et de vie. La croix, c'est aussi une puissance de transformation, transformation de vie. La croix, ce n'est pas seulement une solution au péché, c'est aussi une puissance pour transformer nos vies. En croyant en Christ, eh bien, on devient une nouvelle création. Il y a quelque chose de nouveau qui est fait. On parle de nouvelle naissance aussi, bien évidemment. On devient une nouvelle personne, et c'est pour ça que ça devient possible. On devient véritablement la personne que Dieu avait projetée alors qu'on est arrivé sur cette terre. Nos anciennes habitudes, attitudes passent et on est renouvelé pour vivre une vie sainte. La croix, et c'est la septième chose que je dis sur la croix, il y en aurait tellement à rajouter encore. La croix, c'est un message de victoire et d'espérance. Même si j'ai dit tout à l'heure que c'était atroce, c'était horrible, c'était un lieu de souffrance, mais en même temps, c'est tout son contraire, c'est un lieu de victoire et d'espérance. À travers la croix, Jésus a triomphé de la mort, du péché et de Satan. Et la résurrection prouve que Jésus a remporté la victoire finale. Et je vous ai partagé le « tout est accompli, tout est payé ». Christ a tout payé, tout payé. C'est réglé, la note est payée, totalement. La résurrection prouve que Jésus a remporté cette victoire et on partage cette victoire avec lui. On fait nôtre cette victoire de Jésus. Et dans Colossiens 2,15, il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Et la croix, c'est encore une alliance. C'est une alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Une nouvelle alliance par son sang. Matthieu 26, 26, c'est facile à se souvenir. Hein, c'est comme Matthieu 4, 4, à vous de trouver ce que ça dit. Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Le sang de la nouvelle alliance. Il y a l'ancienne alliance et son sang est une alliance. Alors la croix, oui, c'est toutes ces choses. Une petite chose que j'ai relevée, vous pouvez en rajouter. Si vous êtes curieux et que vous voulez creuser ce point, parce que peut-être vous avez besoin d'une nouvelle révélation sur la puissance de la croix, tout ce que c'est. Alors je vous ai parlé de l'amour de Dieu, je vous ai parlé de la croix, j'aimerais parler, pour terminer, de la sanctification. La sanctification. Et c'est là où j'en viens à 1 Pierre 1,16, qui nous dit, en effet, il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui. Les croyants sont encouragés à se rappeler qu'ils ont été appelés à refléter le caractère de Dieu dans leur vie, être saint. On est souvent, c'est un peu biaisé comme terme parce qu'on parle des saints, il y avait 1er novembre, voilà, ou d'autres choses comme ça. C'est un peu biaisé. Et vous serez saint, ça ne veut pas dire que vous serez mort. C'est des gens qui sont mis à part pour Dieu. C'est des gens bien vivants. Vous serez saints. Vous serez mis à part de ce monde, finalement. Vous penserez, agirez, aimez, comme d'autres. Et les croyants sont encouragés à se rappeler bien qu'ils sont mis à part pour refléter la gloire de Dieu, pour aimer, pour se souvenir aussi de cette alliance dans le sang de Jésus. Et j'aimerais vous parler du feu étranger pour terminer avec cette notion de sanctification. Combien de fois on tolère du feu étranger? Dans Lévitique 10, versets 1 et 2, il nous éclaire sur ce que signifie le feu étranger. Les fils d'Aaron, donc Lévitique 10, 1 et 2, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Dans ce passage, Nadab et Abihu, donc les fils du grand prêtre Aaron, ont offert un feu étranger, c'est-à-dire non conforme aux instructions de Dieu. C'était très strict. Le service du temple, le service pour Dieu, c'était extrêmement strict. Et ça nous montre que ça reste strict. Et la croix reste quelque chose de très strict. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a accompli. Mais il peut y avoir un feu étranger. Ils ont agi sans respect pour les prescriptions de Dieu, de la pureté, de la sainteté dans le culte de Dieu. Ils ont fait n'importe quoi. Ça leur a coûté la vie. Et ce récit nous montre que Dieu prend très au sérieux la pureté et la sanctification dans la maison où il demeure. Alors c'est quoi le feu étranger et pourquoi il est dangereux? Le feu étranger représente tout ce qui n'est pas conforme finalement à la volonté de Dieu. Tout ce qui est introduit dans la vie spirituelle mais qui est en dehors de sa sainteté, de ses commandements. Vous connaissez la volonté de Dieu? Lisez la Bible. Lisez la Bible, on en revient à des choses. Désolé, il n'y a rien de neuf. Rien de neuf. L'emballage peut changer. Il y a mille et une versions en français courant, français fondamental, summer. Il y a mille et une versions. On peut rajouter des témoignages pour encourager à la lecture. C'est dommage, certains se bornent à lire juste les témoignages. Il faut lire aussi la Bible. Mais... ce feu étranger peut prendre plusieurs formes dans nos vies. C'est les compromis spirituels. Amener dans la vie de l'Église ou dans votre vie personnelle des pratiques ou des comportements, des enseignements contraires à la parole de Dieu. Je ne vais pas vous faire de liste. Trouvez dans la Bible, ça se trouve. Qui cherche trouve, nous dit la parole de Dieu aussi. Hypocrisie, le péché caché aussi, lorsqu'on a une vie double, on laisse un feu étranger. Dans notre cœur, là où Dieu devrait résider en pureté. L'orgueil, l'autosuffisance, c'est aussi comme un feu étranger lorsqu'on se présente devant Dieu sans humilité, pensant qu'on peut faire les choses à notre manière sans suivre ses directives. C'est Nadab et Abihu, ils se sont dit, bon, il y avait un ordre, une prescription, mais on va prendre des raccourcis, on va faire comme on veut, comme on peut. C'est plus rapide, moins pénible, moins coûteux. Et puis, c'est pas grave, de toute façon, on est quand même les fils du grand prêtre, donc on peut prendre des raccourcis. Non, on peut pas. Pourquoi la pureté est-elle si importante dans la maison de Dieu? Dieu est saint et demande la sainteté d'un Pierre en 16 que je vous ai lu tout à l'heure. Il nous a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Et la sainteté de Dieu exige eh bien, qu'on s'approche de lui avec un cœur pur. La pureté permet aussi la présence de Dieu. Dieu ne peut résider là où le péché est toléré ou justifié. Dans Matthieu 5,8, Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Vous voulez voir Dieu ? Mais je pense que sans ça, vous ne seriez pas là. Cherchez la pureté du cœur. Bien sûr, vous le voulez, vous ne seriez pas là, c'est certain. Mais venez à la croix. Considérez tous les éléments que j'ai dit et rajoutez-en encore en lisant la parole de Dieu. La pureté dans la maison de Dieu attire sa présence, permet aux croyants de vivre sa bénédiction. Et la pureté, c'est aussi un témoignage au monde. Lorsque l'Église vit dans la pureté, elle reflète aussi le caractère de Dieu et devient une lumière pour le monde. Une église sanctifiée est un puissant témoignage aussi pour de la transformation de Dieu. Relisez les 7 lettres de l'Apocalypse là aussi. Regardez combien l'impureté coûtait cher aussi dans le jugement de Dieu. Et finalement, l'église qui paraissait être très faible, Philadelphie, mais qui était droite, qui était juste, eh bien, on lui présentait des éloges. 1 Pierre 2,9 nous dit qu'on est appelé à être un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, mis à part. Et comment éviter le feu étranger dans notre vie spirituelle ? C'est examiner nos motivations, nos actions. On devrait demander si ce qu'on fait dans l'Église ou dans notre vie, dans nos familles, est pour la gloire de Dieu ou juste pour satisfaire notre propre volonté. Tout doit être fait pour honorer Dieu et non pour plaire aux hommes ou nourrir notre ego. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais combien de choses on fait dans le but d'être quand même un petit peu remarqué, un petit peu applaudi, un petit peu remercié, ça fait du bien, la reconnaissance. Je crois que c'est quand même un don très important d'être reconnaissant et d'être reconnaissant envers Dieu, bien évidemment, mais envers les autres. Ça nous évite d'être ronchon et vindicatif ou que sais-je, Mais combien de fois on le fait parfois dans cet objectif-là ? Parce qu'on ne sait pas vraiment qui on est en Dieu. On a besoin finalement de flatter notre ego. Revenir constamment à la parole de Dieu aussi eh bien, est un moyen d'éviter le feu étranger. La parole, c'est le filtre de notre vie et de nos choix. Et si quelque chose n'est pas en accord avec la Bible, eh bien, ça doit être écarté. Dans Hébreux 4,12, il est dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. » À deux tranchants. C'est cette parole de Dieu qui va trancher jointure et moelle, qui va nous remettre face aux réalités et faire de notre cœur une maison sanctifiée. On est chacun le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6,19 que notre corps est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Ça signifie qu'on devrait veiller à ce que notre cœur soit un lieu pur. Est-ce que vous croyez que Dieu a envie de venir là où ça pue ? Est-ce que vous appréciez aller là où c'est sale ou de vous, je sais pas, vous louer une chambre d'hôtel puis tu te rends compte que les draps n'ont pas été changés puis c'est, enfin bref quoi. Notre corps, hein, notre cœur, notre vie, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a l'illusion de croire que Dieu, dans sa bonté, est tellement bon ? Dans sa bonté, Dieu est juste. Dieu est vrai. Et souvenez-vous que sa bonté lui a coûté la vie. Il est passé à la croix. Alors, rejeter tout feu étranger dans notre vie personnelle permet de préparer une maison pure pour Dieu. Alors, je vais conclure. Comme Nadab et Abihu, certains peuvent vouloir approcher Dieu de manière superficielle. On le fait, on a vu comment ça se fait. Peut-être leur père faisait d'une certaine manière, puis ils se sont dit, ben allons-y, comme ça, tranquille. On fait comme bon nous semble. Non. Superficiellement, ça ne marche pas. Alors on peut le faire, on peut même essayer d'être drôle, mais ça ne fera pas rire Dieu. L'authenticité dans l'adoration implique de venir avec un cœur pur, sans fausse motivation. tellement important. Prendre au sérieux le rôle de l'Église comme temple de Dieu aussi. Chaque membre de l'Église est une pierre vivante, un temple spirituel, un pierre de cinq. Et si on introduit des éléments étrangers dans l'Église, eh bien on en affaiblit la force spirituelle et le corps tout entier. Et en rejetant le feu étranger, en veillant à la pureté de notre communauté, eh bien ça permet à l'Église de rester unie et de croître. On est tous en route, mes frères et sœurs. Je ne suis pas en train de mettre un quelconque légalisme là-dessus. Mais je suis en train de dire, ne nous contentons pas de ce qu'on est déjà maintenant. Laissons-nous transformer. Laissons-nous visiter. Laissons-nous convaincre. Hébreux 10, 24 à 29 nous dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur, le retour de Jésus. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. » C'est Nabihu et son frère, hein, Nadab et Abihu. C'est dans le Nouveau Testament, hein, ce que je suis en train de lire, ce n'est pas l'Ancien. Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, on pourrait dire, ouais, mais ça c'était de l'Ancien. Non, ça, c'est tout à la fin de votre Bible, pratiquement. Verset 28. « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si deux ou trois témoins déposent contre lui. » Verset 29. « À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance, par lequel il a été purifié, il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine. Ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment sévère encore ?» Plus sévère encore. Waouh. En lisant ça, je me suis dit « Waouh !» Là, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il y a ce rappel des conséquences de celui qui omet la croix. De celui qui omet la croix pour aller à l'amour de Dieu et qui veut juste annoncer une bonne nouvelle ou faire des... Ce n'est pas possible. Il y a une bonne nouvelle. Alors Dieu attend de son peuple l'amour, cet amour sincère, cet amour pour le prochain. Dieu attend de son peuple qu'il soit sous l'alliance de la croix. Et la pureté dans la maison de Dieu est indispensable pour entretenir une relation vraie et puissante avec lui. Examinons nos vies, détournons de tout compromis et vivons cette sanctification pour honorer la présence de Dieu. En rejetant le feu étranger, en choisissant la voie de la pureté, en préparant finalement la venue du Seigneur. En bourrant d'huile notre vie. Cette huile pour cette lampe qui va permettre de briller lorsque Jésus va revenir. Nettoyez votre maison. Peut-être vous dites, oh l'église encore, c'est pas top, et puis il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas toutes ces lumières, tous ces projecteurs, toute cette sono, tous ces machins, tous ces bidules. Ça ne va pas monter au ciel, ça. Hein. Ça, c'est que de l'enrobage pour chercher... Alors, je ne dis pas qu'il ne le faut pas, bien évidemment. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tout ça, c'est de l'enrobage. Chérissons le contenu. Chérissons le contenu. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais juste vous donner l'occasion de répondre à ce message tellement important pour progresser dans notre foi. Pour progresser, juste dire, mais oui, j'ai besoin de cet amour de Dieu, mais me rends compte que j'ai besoin d'une nouvelle révélation de la croix, la puissance de la croix. Peut-être tu te dis, mais j'ai laissé un feu étranger dans ma vie, j'ai laissé de l'amertume, j'ai laissé des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Peut-être tu te dis, mais finalement, c'est quoi la volonté de Dieu? Peut-être tu ne sais même pas parce que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu. Oui, peut-être tu as plein de versions sur ton smartphone, sur ta tablette, dans ta bibliothèque. Tu en as reçu une, deux, trois. Tu as même, tu peux le dire, hein, j'ai la Bible des Gédéons. C'est super, mais ce n'est pas un porte-bonheur. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut l'ouvrir. Peu importe la version, peu importe qu'elle soit belle, avec des petits ou des gros caractères. Moi, à 49 ans, je me suis rendu compte que c'était tellement plus intéressant de lire avec des gros caractères. Plutôt de me crever les yeux. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Mais malgré peut-être cette touche d'humour, excusez-moi, mais c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Tellement sérieux. Si vous voulez répondre en disant, mais moi je veux prendre un engagement par rapport à telle chose que j'ai entendue ce matin, peut-être jeter ce feu étranger et revenir à la pureté de l'Évangile, revenir à la vérité de la croix, revenir à cette bénédiction du sang de l'Alliance. Ce sang qui a coulé, on prendra tout à l'heure la Sainte Cène. Ben, levez-vous juste à vos places. C'est entre vous et Dieu, c'est votre choix de dire « mais oui ». Peut-être tu te dis « mais j'ai juste besoin d'une nouvelle révélation ». C'est peut-être comme du chinois où c'est incompréhensible, je ne comprends pas, j'ai besoin d'une nouvelle révélation de ce qu'est la croix. Lève-toi à ta place. Et je vais juste terminer par la prière et après on prendra la Sainte Cène. Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour une nouvelle révélation par la puissance de ton esprit. Seigneur, qu'on ne tombe pas dans des choses qu'on doit faire. Seigneur, tu veux nous libérer de ce « je dois faire ». Je dois. Mais tu nous proposes cette nouvelle relation par une révélation de ta personne et de ce qu'est la croix. Bénis ces frères, ces sœurs, Seigneur, qui se lèvent, Seigneur, qui ont besoin de progresser, qui ont besoin peut-être de déposer tel ou tel péché. Seigneur, merci parce que là encore, la puissance de la croix est toute suffisante. Et je te rends grâce pour cela. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.